France Culture.
Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
C'est l'histoire d'un solitaire. Pas un gars qui aime la tranquillité et fuit le monde, mais un diamant de 18,88 carats monté sur une bague en platine et posé négligemment sur la table de nuit de la vedette de télé-réalité Kimberly Kardashian le soir du 2 octobre 2016. Une belle bague en diamant offerte par son très amoureux fiancé puisqu'elle est estimée à 4 millions de dollars. Un solitaire qui ne l'est pas tant que ça en réalité, car seront dérobés ce soir-là 5 autres millions de bijoux dans l'hôtel parisien où loge la star qui, à l'évidence, aime bien les bijoux. Lors de son précédent mariage, qui a duré 72 jours, elle avait aussi reçu un diamant, mais seulement 16 carats, 2 millions environ, un peu radin. Les auteurs du larcin seront vite surnommés les papis braqueurs, tant ils travaillent à l'ancienne, arrivent en vélo et semblent parfois un peu losers. Il y en a même un qui confond Kim Kardashian avec Kim Basinger. On fait aujourd'hui connaissance avec l'un d'entre eux qui nous raconte son parcours et cette nuit-là. Non sans préciser qu'en dehors de la richesse démesurée et sans cesse exhibée de la famille Kardashian et du relatif amateurisme des braqueurs, c'est une histoire d'une grande violence au cours de laquelle une femme a été séquestrée et bâillonnée sur son lit, puis déposée dans la baignoire, les mains liées avec des câbles en plastique et du scotch, comme le rapporte Le Monde, par des papis pas rigolos du tout. Tout de suite donc le récit de Claudia Prolongeau, assorti des précautions d'usage sur le fait que les propos que nous diffusons ne reflètent pas le point de vue de notre rédaction.
Je m'appelle Eunice Abbas, je suis né le 4 août 1953, je viens de finir mes 72 ans, j'attaque les 73, je suis marié, j'ai 2 enfants et 4 petits-enfants. J'ai passé à peu près 20 ans en prison. J'ai eu la première fois 5 ans, dont 2 ans avec sursis. La deuxième fois, j'ai eu 9 ans. La troisième fois, j'ai eu 12 ans. En gros, c'est toujours pour des vols. Alors moi, je suis d'origine algérienne. Mon père a débarqué en France en 1944 avec le débarquement. Il a fait le débarquement de Provence. Et lui, il avait découvert la France comme ça. Il a dit à ma mère, on part en France, les Français de là-bas ne sont pas les mêmes qu'ici. Et donc, il est revenu en France et ma mère l'a suivi quelques temps après. Et donc, moi, je suis né en France. La ville où je suis né, c'est Clichy-sous-Bois. C'est où j'habite toujours, hein. Je suis issu d'un milieu ouvrier. Mon père, il était poseur de rails. Il travaillait dans une société de chemin de fer. Alors, ma mère, elle s'est mise à travailler dans les années 65-66. Elle faisait des ménages. Nous étions 6 enfants à la maison quand mon père est décédé. Mon père est décédé en 59 pendant les événements d'Algérie. Donc j'avais 6 ans. 5 semaines après le décès de mon père, on a perdu une petite sœur. Donc nous sommes restés 5 enfants. 2 filles, 3 garçons. Comme mon père, c'est un ancien militaire, ma mère avait une petite pension d'ancien combattant, plus les petits boulots qu'elle faisait à droite à gauche. Elle s'en sortait tant bien que mal, mais on n'a jamais eu faim, on n'a jamais eu froid. Et pourtant, les hivers à l'époque étaient rigoureux. C'était assez dur par rapport à aujourd'hui. À l'époque, on était dans une ville communiste, Clichy-sous-Bois, et on nous prenait tous les jeudis, on nous emmenait à la piscine, faire des courses, jouer au football. Le Parti communiste s'occupait bien de nous. On était même en colonie de vacances. On allait dans la Creuse, où moi j'allais à Angoulins-sur-Mer. C'est le souvenir que j'ai gardé, les colonies de vacances, que j'ai apprécié. Parce que sinon, on partait pas. Puis après, le temps passant, je me suis mis à travailler dans un garage. Pour moi, il suffisait d'avoir une formation, travailler, gagner sa vie. C'était ma ligne de conduite. Et donc, j'attendais le week-end. sortir avec mes copains en discothèque et tout. Donc on se préparait, on se posait les brushings, on était prêts à sortir. Mais comme on était au lendemain de la guerre d'Algérie, il y a eu un rapatriement de beaucoup de pieds noirs. Et certains se sont retrouvés dans la police. Ils avaient quand même une petite revanche à prendre sur nous. Et donc, ils nous attendaient à la sortie du café. Ils nous embarquaient, ils nous faisaient passer la nuit au commissariat. Ils nous relâchaient le lendemain à 6 heures. Et on n'avait rien fait. C'était le contrôle. Et on nous embarquait pour la nuit. Mais ça nous arrivait régulièrement une fois par mois. On le passait au commissariat de police jusqu'au du matin à 8 heures. Ils disaient « rentrez chez vous ». Donc le brushing était parti, les affaires étaient froissées. On rentrait à la maison, le lundi matin, il fallait reprendre le boulot. Donc la garde à vue ne faisait plus peur, les commissariats ne faisaient plus peur, la police ne faisait plus peur. On y a tellement été pour rien qu'on s'est habitué à l'enfermement. Ce qui fait que j'ai commencé à prendre en grippe le système. Comme j'avais une formation de mécanicien en auto, je savais me servir de métallurgie, de chalumeau. Je savais un petit peu comment me débrouiller avec les outillages. Et bon, un jour, on m'a demandé si j'étais capable d'ouvrir un coffre-fort. J'en sais rien, il faut que j'essaye pour savoir. Puis voilà, on m'a apporté le coffre-fort. J'ai mis 5 ou 6 heures. Je l'ai ouvert. C'était la divine surprise. Il y avait 12 millions de centimes. C'était la surprise totale. Et ça m'a beaucoup perturbé, parce que à l'époque, un appartement, ça coûtait 1 million de centimes, 1 million 5. Donc vous pouviez acheter une voiture, vous pouviez acheter un appartement, vous pouviez partir en vacances. On pensait même que c'était la richesse, on pensait que c'était fini, on n'avait plus besoin de travailler. On idéalisait, et c'était là. Bon, moi, je n'avais pas une part entière, mais ça m'a donné envie d'aller plus loin. J'ai été condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis. J'étais mineur à l'époque, parce que la majorité était à 21 ans et moi j'avais 18 ans. C'était en février 1971. Et donc j'ai été libéré en 1972-73 de ma première peine. Et j'avais décidé de raccrocher, de ne plus me mêler de ces histoires-là. J'avais raccroché. Je n'ai pas recommencé pendant 9 ans. Donc, je me suis décidé de me marier, j'ai eu 2 enfants, j'ai acheté un magasin d'accessoires auto, parce qu'à l'époque, les voitures n'étaient pas équipées comme aujourd'hui, il fallait mettre les autoradios, les attelages de caravane, il fallait tout installer en accessoires après. Donc j'avais un atelier où je vendais les accessoires et je les installais. Et jusqu'au moment où, là, je me suis mis en vouloir aux banques. Parce que ma famille n'était pas milliardaire, je n'avais pas de garantie financière, donc il fallait que je finance tout seul, il fallait que je me débrouille. Donc c'était par le travail, et uniquement le travail. Et croyez-moi, j'ai donné des heures et j'ai donné de mon temps. Jusqu'à ce que j'ai eu mes problèmes bancaires avec mon magasin, je me voyais perdre mon commerce. Et à ce moment-là, c'était dans mon magasin, j'avais rendu service à mes fameux copains, j'avais un atelier d'installation, je faisais les plaques d'immatriculation. J'avais posé un jeu de plaques sur une voiture qui avait servi à un hold-up. Et il l'avait abandonné dans le centre commercial. Et les vigiles l'ont repéré, l'ont appelé à la police. Mais moi, je me suis contenté de poser des plaques d'immatriculation sur une voiture. C'était mon métier, c'est ce que je faisais tous les jours. Évidemment, je n'étais pas censé ignorer que la voiture, ce n'était pas le bon numéro, ce n'était pas ses papiers. Ça, je le savais, parce que les gens, c'était des amis d'enfants, je les connaissais. Et donc, avec ce lien... Ça m'a accroché dans la complicité du vol à main armée. Alors, la deuxième fois, c'était quand même assez lourd. J'ai fait 5 ans et 10 mois ferme. Ma femme a réagi très très mal. Elle est tombée de haut. Elle ne s'attendait pas à ça du tout. Elle me voyait aller bosser tous les jours. Je tenais un commerce. Comment j'ai pu me retrouver dans une histoire pareille ? Pour elle, c'était la surprise totale. Elle se retrouve toute seule à élever ses 2 enfants, à faire face à ses charges. Non, c'est pas facile. Normalement, elle était là à tous les parloirs, elle s'est occupée de moi tout le temps. Elle ne m'a jamais laissé tomber. C'est exceptionnel. C'est comme ça que mon couple est resté jusqu'au bout, jusqu'à aujourd'hui. Alors là, quand je suis sorti, je n'ai rien fait pendant un mois ou deux. Puis après, petit à petit, comme je suis mécano, j'ai essayé de reprendre le travail des voitures. Et puis, j'ai repris un hangar, un petit dépôt. Et je me suis remis à faire de la mécanique de la réparation à mon compte, d'abord au noir, puis après en me déclarant et en registre de commerce, petit à petit. Mais bon, je vivotais. Je vivotais, c'était pas le grand truc. Des gars m'ont demandé de faire une planque dans une voiture pour transporter du hashish. Et j'ai fabriqué cette planque. Donc je suis retourné en prison en 93. Donc je suis sorti en 2001. Et puis j'ai fait une crise cardiaque en 2003. Et à ce moment-là, je me suis dit pourquoi je m'emmerde à aller bosser, puisque de toute façon je vais crever dans le même état. Donc du coup, j'ai plus de frein, j'ai plus la chose de me dire non, c'est pas bien, ça se fait pas. Je m'en fiche totalement, complètement. Parce qu'à chaque fois que vous ressortez, il faut reconstruire votre vie. Il faut repartir à zéro. Personne ne vous fait de cadeau. Ça sert à rien. Et donc, j'ai fait un braquage d'une banque à Bruxelles, en Belgique, en 2003. Et je n'étais arrêté qu'en 2005. Et donc, je suis sorti définitivement de prison de Belgique en 2007. Dès que j'ai rencontré des vieux potes, que quelqu'un m'a proposé quelque chose, j'ai dit, tiens, je retente ma chance. Je n'ai toujours pas de chance dans la matière, mais j'ai toujours tenté. À ce moment-là, j'ai 62 ans. Je travaillais avec un copain qui tenait un garage, un ami d'enfance qui avait un garage pas loin de chez moi, à Montfermeil. Je lui donnais un coup de main, je l'aidais à faire quelques voitures de temps en temps. Et il me cédait une petite place, il me permettait d'arrondir mes fins de mois. Et là, j'ai des anciens copains que j'ai connus en prison qui me disent « On est sur un truc, est-ce que ça t'intéresserait ?» Je dis « Ça dépend, c'est quoi ?» Un gros diamant, une personne célèbre qui est mariée avec un rappeur célèbre. Donc moi, c'est pas mon genre de musique, donc je suis plutôt bluesman, rock'n'roll, des trucs comme ça, je suis pas du tout dans le rap. Et donc, je sais pas qui c'est. On me dit pas que c'est Kim Kardashian. On ne dit pas, on prononce pas jamais son nom. Même lui, on ne prononce pas son nom. Et donc, il y a là un diamant de 19 carats et demi qu'il lui a offert pour son anniversaire, je crois. Et bon, et ça se passe comment? Il me dit, dans un hôtel, la nuit, je dis, tiens, c'est pas une banque, il n'y a pas d'alarme, pas de caméra. La nuit, tous les chats sont gris. On attend que tu nous donnes un coup de main pour garder les gens éventuellement... qu'on allait coincer le concierge en particulier, il n'y avait que lui. Mais ils avaient prévu qu'il y avait peut-être des clients qui seraient là. Donc il fallait tenir tous ces gens en respect, donc il fallait les garder et surveiller, et se faire passer pour le concierge si quelqu'un arrivait. Alors ils ont aussi fait appel à moi, parce que bon, j'ai fait pas mal d'arts martiaux pendant des années, donc j'ai été le candidat idéal. Et eux se chargeaient de récupérer les bijoux, de monter à l'hôtel, et ainsi de suite. Et c'est ce que j'ai fait. Alors j'accepte de participer parce que le gars avec qui je travaillais, qui est dans son local, il prenait sa retraite, il s'en allait. Et évidemment, je ne pouvais pas lui reprendre le local, je n'avais pas les moyens. Donc je cherchais le moyen de reprendre un petit local pour travailler à mon compte. Et il me fallait un petit capital. Donc ça devait me servir à ça. Parce que moi, je suis monté pour me faire un petit billet de 150 000 euros. Je suis monté pour ça, moi. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Quand l'affaire a été confirmée, ils sont venus me récupérer à la gare Saint-Lazare à pied, et les vélos étaient juste à la gare et à la sortie du métro. On est arrivé à l'hôtel en VTT. À cause des rues en sens unique et impossibilité de stationner, il fallait être le plus discret possible, et les VTT, on les a rentrés dans la cour de l'hôtel. Ce qui nous a permis de ne pas laisser de traces dehors. Donc déjà la première surprise quand on a passé la porte cochère, c'est qu'il y avait deux grosses caméras. Ils vous prennent en enfilade. Et là, mes collègues, ils avaient apporté du matériel pour mettre une couverture dessus, pour pas qu'ils puissent filmer. Seulement, ce qu'ils avaient prévu, c'était trop court. C'était pas assez haut pour les accrocher, parce qu'elles étaient très hautes. Donc, ça a commencé un petit peu à s'inquiéter de ce qu'on allait faire. On n'avait encore rien fait. On n'était pas rentrés, on avait menacé personne, on n'était encore pas rentrés. Et finalement, une petite réflexion, on a compris que comme c'est un endroit où beaucoup de personnalités venaient, ça devait certainement pas marcher, certainement pas filmer. D'ailleurs, on a eu raison, ça filmait pas. Donc on a caché le vélo, un de mes collègues, celui qui avait monté l'affaire, il avait un cahouet marqué police, et il a fait ouvrir la porte par le concierge. Et aussitôt, on a entouré le concierge, et c'est moi qui l'ai bloqué. Pour moi, c'était terminé, il était isolé, tout seul, il pouvait rien faire, il n'avait pas de téléphone, il ne pouvait rien dire. Il s'est mis un peu à parler en nous disant qu'il était prêt à nous aider, il ne fallait pas qu'on fasse des conneries, qu'on soit gentil, qu'on soit même ce qui est normal, on va pas. On l'a rassuré, comme on a pu. Et ensuite, ils sont montés dans la chambre s'occuper de Madame Kardashian. Et au bout d'un moment, j'entends le talkie-walkie qui vibre. Je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a ? On arrive, il me dit. J'ai trouvé qu'ils avaient fait très vite. Ils sont redescendus. Pour moi, le braquage a duré environ 10 minutes. Ensuite, on est sortis tous les trois ensemble. Et moi, le problème, c'est qu'ils m'ont tendu le sac à dos, que je ne suis pas venu avec, et je ne devais pas repartir avec. Ils me l'ont tendu, le sac à dos ne fermait pas. Comme ils avaient tout remballé dedans, n'importe comment, ça ne fermait pas. Donc j'ai pris mon temps pour le refermer. J'y arrivais pas non plus. Et eux, ils sont partis aussi. Je me suis retrouvé tout seul. J'ai dit, bon, je pars pas de temps, je pars comme ça, on verra bien. Déjà que moi, la roue arrière était crevée. En plus, le sac à dos, il avait la sangle traînée parce que je pouvais pas le fermer. Donc je le tenais à la main, je pédalais. Et en sortant, je suis emmené à Nice sur une voiture de police. J'ai dit, bon, ça y est, c'est ma fête, c'est fini. Je pensais que l'alarme avait été donnée, que c'était la police qui arrivait. Alors je leur ai fait un signe de « je me rends », c'est pas la peine de... Eux, ils l'ont pris comme un salut. Ils m'ont fait un salut. Et en fait, c'était une ronde qui passait. Et j'ai continué ma route. Voilà. Donc j'ai pris la rue à gauche, après la rue à droite. Et là, il y avait des travaux, il y avait de la terre qui était mal tassée. Et comme ma roue était crevée, ma jante s'est enfoncée dans la gadoue. Et je suis parti en vrille. Bon, je me suis ramassé. J'étais par terre avec mon sac à dos étalé par terre et les bijoux par terre. C'est là que j'ai vu qu'il y avait des bijoux. Donc j'ai récupéré mon sac à dos, j'ai tout fourré dedans, et je suis parti. Et c'est là que j'ai fait tomber une gourmette, paraît-il. Donc j'ai repris la route, je suis descendu jusqu'à la gare Saint-Lazare, je me suis débarrassé du vélo à la bouche de métro. Et ensuite, j'ai récupéré ma voiture, et je m'en vais, je prends un boulevard de Saint-Ouen, je ne sais plus comment il s'appelle, et là, j'entends un téléphone sonner. Je dis, mais moi, j'ai pas mon téléphone, j'ai pas pris. Est-ce qu'ils en ont oublié un, ils ont oublié le leur? J'entends, qu'est-ce que c'est que ça? J'essaie de trouver une place sur le périphérique, je m'arrive à me garer, je regarde, et je vois un grand téléphone noir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était le téléphone de Kim Kardashian. Évidemment, il l'avait oublié, parce que quand ils sont rentrés dans la chambre, ils lui ont pris son téléphone pour pas qu'elle s'en serve, et ils lui ont pas rendu. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, là, ils sont en train de me tracer, ils savent partout où je suis passé, ils me remontent entièrement. Alors j'ai été jusqu'au pont de Bondy, sur le canal, j'ai attrapé le téléphone et je l'ai jeté dans le canal. Et ensuite, je suis rentré chez moi. J'arrive chez moi, il est, je crois qu'il doit être 5h, 6h du matin déjà. Donc je suis un peu sur les nerfs, j'ai pas envie de dormir, et j'ai écouté les informations, et là j'entends aux informations, un célèbre mannequin s'est fait braquer cette nuit, s'est fait voler ses bijoux. À Paris, par une bande de braqueurs. Je dis, tiens, c'est elle. C'est là que je peux mettre son nom sur l'affaire. Je sais qu'on s'en est pris à Kim Kardashian. Bon, en fait, on a eu de la chance qu'on a découvert à l'audience que quand on est parti de l'hôtel, 2 minutes après, ses gardes du corps, tout son service était là. Dans notre malheur, on a eu de la chance. Parce que là, ça aurait pu mal tourner. Parce que certains d'entre nous étaient armés. Moi, j'avais rien, j'en voulais pas. Moi, je suis pas à l'aise avec. Je fais ce que je sais faire, mais pas ce que je sais pas faire. Moi, j'ai fait des arts martiaux, je sais me défendre et je sais immobiliser les personnes. Bon, là, le garde du corps, c'était quand même un loustique. Hein. Bon, on n'a pas eu affaire à lui. Je sais pas si j'aurais pu lui faire face. À ce moment-là, j'ai qu'une hâte, c'est me débarrasser du sac avec les affaires qu'ils m'ont donné. Moi, je ne veux pas garder de traces chez moi, je ne veux aucune trace. Donc le matin à 6h, ils commencent à me téléphoner, à chercher leur sac partout. Je vois, il est là, vous pouvez venir le chercher. Et donc j'ai attendu vers 7h30, 8h, je crois, ils sont venus. Et je leur ai donné le sac. Après, je suis revenu chez moi, ma femme. Donc, du coup, j'ai réveillé ma femme. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais? C'est va-et-vient depuis ce matin. Tu fais comment? Alors, bon, j'ai raconté une histoire. Évidemment, je suis obligé de lui mentir. Et plus tard, je mets les infos. Et c'est là qu'on ne parle que de ça. On ne parle pas d'autre chose. Et là, elle se tourne vers moi, elle me fait, c'est toi? Ben non, pas du tout. C'est pas moi. J'ai rien à voir là-dedans. Pour qui tu me prends, ça va pas. Et puis, au début, elle m'a pas cru. Puis après, le temps passant, comme on venait pas me chercher, elle a déduit que c'était peut-être pas moi. Donc moi, je réclamais rien, j'attendais mon heure. Parce que si c'est moi qui avais organisé cette affaire, les bijoux auraient été vendus le soir même au lendemain. Et on se revoyait plus, tout le monde touchait sa part et c'était fini. Surtout que mon collègue qui m'avait entraîné dans cette affaire, lui, il était en fuite, il cherchait que l'argent pour se sauver. Donc il avait de quoi partir et puis c'est fini, on parlait plus. Donc, il m'a donné rendez-vous à Paris, au fameux bistrot boulevard Saint-Joseph. C'est là que j'ai été identifié, moi, d'ailleurs. Et il m'a dit, on va vendre en Italie. Ça s'en vend en Italie. J'ai dit, ah bon, tu seras payé avant Noël. Ok, j'attends ça, j'en fais pas plus. Et un petit peu avant Noël, on m'a apporté 70 000 euros en billets de 50 euros. Par contre, moi, je ne pouvais pas être heureux d'avoir un petit billet, avancer dans mes projets et me dire que cette affaire est derrière moi. Je savais qu'elle n'était pas derrière moi. Je me suis dit, après coup, j'ai dû laisser ma tête partout sur les caméras de la ville. Je me suis dit, ils ont ma photo, tous les à la BAC, ils ont tous ma photo partout, comme je suis fiché et connu, et comme il y a la reconnaissance faciale. Ils vont se rapprocher du personnage. Et puis, il y a Damien qui va me tomber dessus, qui va dire, ah, c'est lui. Moi, à la BAC, je la croisais tous les jours, au petit bar, au petit pub, il venait tous les jours. Il me saluait, il me disait bonjour quand je les croisais. Donc, je faisais attention, mais je les attendais. Et donc, j'étais très mal à l'aise, parce que quand rien que le stress que j'ai vécu et ce que j'entendais, déjà, j'ai évité d'écouter les infos, j'ai évité de regarder la télé, parce que ça m'était très mal à l'aise. Pour moi, c'était l'affaire de trop, inutile, il ne fallait pas que je la fasse, c'était trop. Je regrette, je dis tout de suite, c'est qu'est-ce que j'étais faire dans cette galère. Et jusque le matin, jusqu'ils ont frappé, j'ai dit « enfin, ils sont là ». J'étais arrêté en janvier, je crois que c'est le 7 janvier 2017, 3 mois après. L'affaire était en octobre, on s'est fait arrêter en janvier. Et mon collègue là, qui m'a traîné dans l'affaire, lui, il a été identifié tout de suite. Parce qu'ils avaient son ADN. Moi, c'était sur le concierge, mon ADN. Dès que j'ai su qu'ils avaient l'ADN, pourquoi discuter? Ça sert à rien. Donc, moi, on m'a mis à l'hôtel Dieu, parce que j'avais des problèmes cardiaques, je devais me faire opérer d'un souffle cardiaque. Je suis resté pendant 4 jours, je crois, en garde à vue. Et ensuite, j'ai vu un juge des libertés qui a sollicité mon incarcération, et je suis resté 22 mois. Alors après 22 mois de détention préventive, je sors en liberté provisoire. Donc en mai 2025, nous sommes enfin passés en jugement devant la cour d'assises, la chambre criminelle de la cour d'assises de Paris. Un procès qui a duré un peu plus de 3 semaines. Et évidemment, c'était l'assaut des journalistes. Hein. J'ai jamais vu ça. Vous ne pouvez pas faire 10 mètres sans avoir une poignée de journalistes qui vous couraient derrière. Et on a eu affaire à un président franchement objectif. Il ne nous a pas fait de cadeau, il a fait son boulot. Il nous disait bonjour tous les jours, parce que d'habitude, il ne vous parle pas, il ne vous regarde pas. Hein. Et il nous a interviewés chacun notre tour. Chacun a pu s'expliquer normalement, donner sa part de vérité. Moi, c'est la première fois que j'ai eu le témoignage d'une victime de mes propres péripéties, là devant moi. Donc, je n'avais jamais pris connaissance vraiment de ce qui se passait pour une victime. Là, je l'ai découvert. Et elle était formidable. Elle n'a pas fait de cadeau, hein, mais elle n'a pas menti. Je n'ai pas trouvé qu'elle avait exagéré. ce que je savais de l'affaire, ça collait, et elle n'avait pas de haine. Je pense qu'elle a dit ce qu'elle avait ressenti. Qu'elle a eu très peur, qu'elle a passé à ses enfants, qu'elle a cru qu'elle allait mourir. Et ça m'a fait de la peine. Je me suis excusé. Je me suis excusé auprès d'elle, auprès du concierge, que j'avais un peu maltraité. Quand je l'ai balayé, je l'ai fait tomber, je l'ai retourné. Je me suis excusé. Mais bon, ça paraît dérisoire dans ces cas-là. Mais c'était sincère. Et elle nous a pardonné. Donc moi, je l'ai trouvé quand même assez, plutôt humaine. Je préfère qu'elle ait accepté de nous pardonner. Ça m'a fait même plaisir. Ça m'a même apporté un certain soulagement moral. Voilà, je préfère cette situation-là. Parce que dans cette affaire, je suis mal à l'aise. Et ensuite, la justice a tranché. Donc on a eu 5 ans de sursis probatoire, que je purge en ce moment, c'est-à-dire que je vais une fois par mois au centre du ministère de la Justice pour pointer, pour raconter ma vie, ce que je fais tous les jours, comment se passent mes journées. Voilà, donc après cette affaire, les gens m'ont reconnu dans ma rue, les gens m'ont arrêté pour faire des selfies. C'est fou. Il y avait des gens âgés, de 75 ou 95 ans, je sais pas, mais quel âge ils avaient. Ils me tapaient sur l'épaule et ils me faisaient signe de pouce en l'air. Tout le monde me connaît dans mon quartier. Hein. Même les petites dames, les petites retraitées de la rue, comme je les dépanne souvent, elles ont pas d'animosité envers moi, elles sont plutôt sympathiques. J'ai eu aucune agression, aucune menace, rien du tout. Rien. Tous étaient, je dirais pas compréhensifs, mais ils avaient le sourire, ça les avait sourire. Ça nous a rendu sympathiques auprès de gens quand on s'en est pris avec Kim Kardashian. Parce que bon, on ne s'est pas attaqué non plus à quelqu'un qui allait faire ses courses avec son petit porte-monnaie. Il y avait des grosses sommes en jeu, des gros chiffres à annoncer en jeu. Et ça fait rêver tout le monde. Donc j'ai remarqué que les gens n'avaient pas beaucoup d'empathie pour Kim Kardashian. Les gens trouvent que ça n'a pas d'importance parce que c'est Kim Kardashian. Ça ne la touche pas. Elle n'est pas à sa presse, elle s'en fiche. Enfin, c'est ce qu'ils croient. Ça ne la mettra pas sur la paille, elle a les moyens de vivre. Moi, je ne trouve pas ça normal. C'est certainement pas normal qu'on la traite comme ça. Quand je suis sorti de ma prévention, je me suis livré sur les plateaux télé, partout où on a voulu m'entendre, j'y étais, je me suis présenté, j'ai montré ma tête, de façon à ne plus être anonyme. L'anonymat, pour moi, c'est terminé. Je ne peux plus me cacher. Si on me voit passer dans la rue, dire, celui-là, qu'est-ce qu'il prépare? Il prépare un mauvais coup, on le connaît. C'est ça le problème, c'est comme les gens qui jouent aux courses au casino. Quand ils ont un gros gain, ils continuent à jouer. Mais quand ils perdent, ils continuent à jouer. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, j'ai voulu que ma publicité de mon visage me prive de récidive.
C'était le braquage de Kim K, un reportage de Claudia Prolongeau réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à François Vignol et à Younis Abbas. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy avec Zoé Coupé et notre stagiaire, c'est Mina Morel.